La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Tamara Boussac, qui est l'autrice du livre L'affaire de Newburgh aux origines du nouveau conservatisme américain, qui est paru aux éditions de Sciences Po. Eh bien, Tamara Boussac, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour vous présenter un peu, vous êtes maître de conférence en études nord-américaines à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et aussi docteur en histoire de l'école des hautes études en sciences sociales. Eh bien, on va donc parler de votre livre très intéressant qui est issu de votre thèse, hein, si je me souviens bien, tout à fait. Et je crois que vous êtes un peu, dans votre domaine, un peu spécialiste de ce qu'on peut appeler le mouvement dit conservateur aux États-Unis.
C'est ça, exactement.
Voilà. Et ben, vu qu'il y aura l'élection présidentielle qui ne doit pas tarder aux États-Unis avec des enjeux assez cruciaux, donc c'était assez intéressant aussi de revenir sur votre livre, mais qui peut aussi éclairer par rapport à certains aspects ce qui peut se passer aussi en France ou ailleurs, mais on y reviendra sûrement peut-être à la fin de l'entretien. Et ben, ce livre très intéressant, hein, donc c'est à Newburgh l'été 1961. C'est une ville de l'État de New York. Et cette ville de Newburgh, enfin ses élus, ils vont choisir de restreindre drastiquement les aides sociales qui sont versées aux pauvres. Et donc, il y a un personnage assez central qui s'appelle Mitchell, qui est ce qu'on appelle le city manager de la ville, engagé donc par les élus. Et à travers donc son discours, il dit, hein, je cite, hein, que les élus donc, de Newburgh et le city manager, donc Mitchell, il dit qu'il conteste le droit des programmes sociaux. Je cite, hein, c'est son discours, c'est pas le mien. Il conteste le droit des programmes sociaux de contribuer à la taudification des villes, à la propagation des naissances hors mariage et des maladies sociales. Il conteste, je cite aussi, hein, c'est pas du tout mon avis, il conteste le droit de tricheurs immoraux, de paresseux assistés à vampiriser l'aide sociale et le droit des profiteurs à toucher plus grâce aux aides sociales que s'ils travaillaient. Bon voilà, pour avoir un peu un aperçu. Et on voulait vous demander un peu dans quel contexte apparaît donc la décision des élus de Newburgh de faire cette politique selon donc le principe de ce qu'on peut appeler le workfare.
Oui, effectivement, hein, cette affaire de Newburgh, comme je l'ai appelée, elle provient de l'adoption de cette mesure très punitive, hein, par les élus de Newburgh à l'été 1961, notamment avec des mesures qui vont toucher à la remise au travail des bénéficiaires d'aide sociale, donc effectivement ce qu'on appelle le workfare en anglais et dans le contexte états-unien. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette affaire extrêmement locale, avec ce protagoniste, comme vous l'avez rappelé, va finalement prendre une ampleur nationale au fur et à mesure que se déroule l'été 1961, alors qu'à l'origine, effectivement, il y a un contexte vraiment local qu'il faut bien avoir en tête, hein, quand on relit cette histoire, qui est notamment le contexte de ségrégation et de violence raciale extrêmement prononcée à Newburgh dès les années 50, en fait. Hein. Donc, effectivement, Newburgh, c'est une petite ville d'à peu près 30 000 habitants qui se trouve à une centaine de kilomètres au nord de la ville de New York. Donc c'est une petite ville industrielle et qui en fait dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale enregistre être une forme de déclin, donc un déclin économique, hein, avec la délocalisation de plusieurs centres commerciaux, de plusieurs commerces, de plusieurs industries. Un déclin également démographique, hein, puisque la ville va perdre en habitants au cours des années 50, et notamment va perdre en habitants blancs de classe moyenne, alors même qu'au même moment, on assiste à une vague migratoire vers le nord des États-Unis plus généralement, et aussi vers Newburgh, qui n'échappe pas à cette logique nationale. Donc une vague migratoire des Africains-Américains venus du Sud, qui quittent le Sud ségrégationniste et qui vont s'installer dans certaines villes du Nord, notamment Newburgh. Et donc à Newburgh, si on regarde les chiffres du recensement fédéral, on se rend compte que la population noire de la ville est multipliée par 3 dans les années 50. Et en fait, c'est quelque chose qui est vécu avec beaucoup de pessimisme, hein, par les habitants blancs locaux et par le conseil municipal de la ville. Et le conseil municipal, hein, va avoir un discours extrêmement virulent à l'égard des Africains-Américains qui vont progressivement être associés à ce qu'on appelle la figure du pauvre imméritant, avec effectivement des accusations comme la citation que vous avez rappelée le montre très bien, des déclarations qui vont accuser les Africains-Américains de venir à Newburgh dans le seul but de toucher des allocations. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, l'État de New York est un État extrêmement généreux, en tout cas plus généreux que beaucoup d'autres États des États-Unis au même moment, dans l'octroi des aides sociales et aussi dans le montant des aides sociales qui va être plus élevé dans l'État de New York que dans certains autres États. Donc c'est vraiment tout ce contexte de ségrégation de la population noire à Newburgh et aussi voilà d'un rejet très fort de cette dynamique migratoire depuis le sud des États-Unis que la réforme de Newburgh prend racine.
Oui, voilà, donc on peut dire que pour les élus et enfin une grande partie des habitants, pour eux, pauvre égale noir et noir égale et réciproquement.
Exactement, allocataire noir égale mauvais pauvre ou en tout cas fraudeur.
Voilà, et il y a aussi quelque chose de spécifique par rapport aux femmes, et peut-être on pourra peut-être le développer ultérieurement par rapport aux questions de naissance ou mariage, et de rôle dévolu aux femmes dans la structure familiale. Mais donc voilà, et donc du coup, il y a cette question-là. Et donc c'est 13 mesures, hein, en tout, 13 mesures, hein, par exemple, des prestations sociales qui seront délivrées sous la forme de coupons et non plus d'argent sonnant et trébuchant. Les hommes, hein, donc, voilà, les hommes qui seront considérés comme valides, ils seront contraints de travailler 40 heures par semaine dans ce qu'on pourrait appeler des travaux d'intérêt généraux et ne pourraient décliner. Peuvent pas décliner d'offres d'emploi. Par exemple, les femmes qui font des enfants hors mariage, elles seront radiées si elles ont encore un autre enfant. Et d'autres mesures, donc les limitations d'aide à 3 mois par an. Certains qui doivent, donc ceux qui sont des migrants doivent prouver qu'ils ont une offre d'emploi, etc., etc., avec leurs aides limitées à 15 jours. Enfin bon, voilà, etc., etc. Voilà un peu pour de quoi il en retombe de cette politique. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir donc un débat qui va se propager parce que ça va être médiatisé dans la presse et dans les télévisions. Et c'est un débat qui va diviser les États-Unis. Et ce, quelques mois après l'élection de JFK. Comme président de la République, président démocrate, qui a un discours un petit peu progressiste. Voilà. Et donc par rapport à cela, en quoi les lignes de fracture entre ceux qui désirent souhaiter la poursuite de ce qu'on appelle un welfare state d'inspiration rooseveltienne, enfin dans la lignée du New Deal après la crise de 1929. Et qu'est-ce qui oppose ceux qui voudraient continuer cette politique d'aide sociale keynésienne, hein, et leurs opposants conservateurs qui s'y opposent? Quelles seraient les grosses lignes de fracture?
Oui, alors effectivement, c'est intéressant de rappeler ce contexte qui nous fait penser qu'en fait, voilà, la réforme de Newburgh, c'est une forme d'anomalie, en fait. En tout cas, c'est un paradoxe dans l'Amérique triomphale, progressiste, libérale, qu'on associe en général, effectivement, aux années Kennedy. Et c'est ce qui explique qu'effectivement, la presse, mais également tout un tas d'autres acteurs publics à l'époque, et notamment les élus fédéraux, des élus d'État, des administrateurs sociaux, aussi des associations pour les droits civiques, par exemple, vont vraiment s'intéresser à ce qui se passe à Newburg et vont, en fait, transformer leur discours sur la pauvreté à l'aune de ce qui est en train de se passer à Newburg. Et effectivement, ce qui est assez intéressant, hein, c'est que en fait, on peut avoir deux grilles de lecture du débat qui émerge à Newburg en 1961. C'est d'une part, effectivement, une opposition, comme vous l'avez rappelé, entre les partisans d'un welfare state hérité du New Deal, d'inspiration rooseveltienne, donc c'est-à-dire prônant l'intervention de l'État, l'intervention proactive de l'État pour résorber, pour résoudre les inégalités socio-économiques, et puis un courant plus conservateur qui s'inscrit notamment, comme je l'ai dit dans le titre, hein, dans l'origine du nouveau conservatisme américain, de la nouvelle droite américaine qui émerge à ce moment-là, et dont l'un des chevaux de bataille principaux va justement être de se poser au welfare state et aux aides sociales, notamment avec une grille de lecture fiscale. C'est-à-dire que l'argument de la fiscalité est vraiment central, hein, dans les discours conservateurs et en fait dans les discours aussi qui viennent plutôt de la base. C'est-à-dire que notamment dans ce livre, j'étudie à un moment un corpus de lettres envoyées par des citoyens lambda à leurs élus et qui justement vont prendre cette égose pour les élus de Newburg en dénonçant le lourd fardeau fiscal dont ils seraient affligés à cause des dépenses sociales. Donc effectivement, la mobilisation d'un argument de ce qu'aujourd'hui, de manière peut-être anachronique, on appellerait une forme de ras-le-bol fiscal, c'est quelque chose dont on trouve trace de manière extrêmement forte en 1960. Au moment de l'affaire de Newburg. Et effectivement, pour cette nouvelle droite américaine, dans un sens, soutenir les élus de Newburg et donc, dans un sens, vilipender l'action sociale de l'État et notamment de l'État fédéral, c'est une manière de s'opposer au programme de politique intérieure du président Kennedy, hein, qui est un programme surnommé la Nouvelle Frontière et qui justement repose sur une logique d'investissements sociaux, d'investissements dans les infrastructures, dans des soutiens notamment aux soins de santé, enfin voilà, toute une série de programmes sociaux et d'investissements que les conservateurs ont en horreur. Et au final, cet affrontement entre conservateurs et libéraux qu'on a à l'été 61, c'est aussi un affrontement entre conservateurs antifiscaux et la politique sociale de l'administration Kennedy. Cependant, on peut aussi avoir une deuxième grille de lecture hein, qui, je pense, est assez intéressante. C'est que quand on regarde cette histoire et quand on lit le livre, on se rend compte que la critique de l'aide sociale, elle n'est pas seulement cantonnée au camp conservateur. Et en fait, peu à peu, l'idée de dysfonctionnement de l'aide sociale, et notamment voilà, l'aide sociale qui encouragerait l'inactivité, l'assistanat, qui encouragerait les naissances hors mariage également, puisque c'est un thème important à l'époque, c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver chez de nombreux démocrates, en fait. Et il y a une forme de presque consensus, en fait, qui va émerger de l'affaire de Newburg, un consensus transpartisan sur la nécessité de réformer l'aide sociale pour en corriger notamment les abus.
Et donc vous parlez d'un consensus, on peut dire que ce consensus-là, il va alors à l'inverse d'un autre consensus qui était le consensus keynésien, qui était partagé à la fois par les démocrates et les républicains, surtout derrière la personne de Eisenhower comme président, qui faisait un peu la même politique que Roosevelt. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le liberal, qui n'est pas du tout le même sens de libéral en France, mais qui est plutôt on va dire quelque chose de, entre guillemets, humaniste ou quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, qui, dans une période quand même d'opulence et d'expansion de la classe moyenne vers ces années-là, et qui pouvait donc se permettre un certain mode de vie, donc d'octroyer des aides sociales aux pauvres, où la question fiscale ne se posait peut-être pas encore. Et c'est comme il commence à avoir une petite crise économique ou des choses comme ça. C'est à partir de cette période-là aussi que ça a pu enclencher le mouvement. Et aussi, vous parlez, ce qui est assez important, c'était l'échelle locale dans les interactions entre les villes et les États locaux par rapport à l'État fédéral et comment ça a pu se jouer aussi par rapport à cette question-là. Avec, c'est pas quelque chose de libertarien, mais qui pourrait plus ou moins ressembler à ce qu'on appelle quelque part une certaine idée libertarienne, même si c'est pas tout à fait ça.
Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie, il y a une vraie réflexion quand même, hein, chez beaucoup d'acteurs, et notamment chez les conservateurs, et aussi, voilà, notamment chez les citoyens, les électeurs qui vont alerter leurs élus, une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un bon État et qu'est-ce que c'est qu'un État qui administre bien, donc qui administre de manière vertueuse, avec la question de la bonne gestion des finances publiques, de la bonne gestion des affaires publiques. Et effectivement, l'argument du local est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on voit se former, et en fait, c'est quelque chose d'ancien dans la tradition politique américaine, puisqu'effectivement, en fait, avant les années 30 et avant le New Deal, la question de la gestion de la pauvreté, c'est traditionnellement une compétence des collectivités locales, donc des villes et des comtés. Et à partir du New Deal, effectivement, l'État fédéral et les États fédérés sont de plus importants dans cette administration-là. Mais on voit en 1960, effectivement, la revendication d'un modèle plus ancien de la gestion de la pauvreté, et notamment avec l'argument que les villes et les collectivités locales sont plus à même d'être de bonnes gestionnaires, parce que elles connaissent leur territoire. Les élus ont une vraie cartographie de leurs moyens, de leur budget, et donc au final la bonne gestion, elle n'est pas du côté fédéral, hein, qui est une espèce de grosse machine qui dépense et qui gaspille l'argent. En gros, je paraphrase les arguments qu'on peut trouver dans de nombreuses lettres ou dans de nombreux éditoriaux conservateurs de l'époque. Et si on veut rajouter de la rationalité dans le système social, hein, si on veut bien le gérer, le système de protection sociale, il faut que ça soit que ça redevienne une compétence pour les élus locaux. Et c'est vraiment quelque chose que les élus de Newburgh eux-mêmes vont mettre en avant, hein, quand ils vont effectivement défendre leur réforme dans la presse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme elle-même, en fait, elle est très peu appliquée, puisque très rapidement, l'État de New York, donc la Cour suprême de l'État de New York va suspendre la mise en application de la réforme, parce qu'en fait, elle est illégale au regard du droit de l'État fédéral et du droit de l'État de New York. Et les élus de Newburgh vont rétorquer que justement la question, ce n'est pas tellement de savoir si la réforme est légale au regard du droit fédéral, mais plutôt est-ce qu'elle est légitime selon le bon sens citoyen, et notamment avec l'argument de la bonne gestion financière qui serait l'apanage des collectivités locales et non pas des échelons supérieurs de l'État dans le cadre du fédéralisme américain.
Eh ben, on va faire la première pause musicale avant de poser d'autres questions.
Mm-hmm.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient donc d'écouter un vieux morceau de blues. Et donc l'interprète c'est Lulu Jackson et le titre c'est You're Going to Leave the Old Home Gym. Donc à propos d'Afro-Américains qui vont quitter leur maison, ça rentre tout à fait par rapport à donc, ces histoires un peu de migration de Noirs hein, qui viennent un peu du Sud, du Nord, qui sont un peu montrés du doigt. Et par rapport à ça, ce qui est aussi intéressant de noter hein, par rapport à donc, ces populations afro-américaines qui sont discriminées et stigmatisées, il y a le mouvement des droits civiques qui va se mobiliser, mais il se mobilisera donc au Nord, alors qu'on a un peu l'image du mouvement des droits civiques qui se mobilise dans le Sud des États-Unis contre les lois Jim Crow, les lois de ségrégation. Mais là, donc, dans ces États du Nord, le mouvement des droits civiques, donc l'association NEACP, N-A-A-C-P en français, va donc se mobiliser contre ces mesures. Quel est le rôle ou quelles sont les actions du mouvement des droits civiques à cette époque par rapport à cette politique au Sud contre les lois Jim Crow, comme au Nord par rapport à cette réforme donc, des élus de Newburgh?
Oui, c'est vrai que c'est intéressant. On est, si on s'intéresse un peu plus généralement à la période et même au-delà de la question simplement de l'aide sociale, on est vraiment dans une période extrêmement forte dans l'activisme des associations en faveur des droits civiques hein, dans les années 1950-1960. Et c'est vrai que souvent, aujourd'hui encore, quand on pense au mouvement pour les droits civiques, on pense surtout à l'action des associations dans le Sud, avec effectivement hein, le contexte ségrégationniste, des lois Jim Crow dans le sud du pays et où les associations vont être extrêmement actives, notamment sur la question de la déségrégation des écoles publiques, la déségrégation des espaces publics et la question de l'accès au droit de vote et de la garantie du droit de vote pour les citoyens noirs dans le sud des États-Unis. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de ramener effectivement le nord des États-Unis, qu'on imagine de fait hein, beaucoup plus progressiste sur les questions d'égalité raciale, de réintégrer le nord des États-Unis dans cette histoire du mouvement pour les droits civiques. Et en fait, c'est ce que font de nombreux historiens hein, depuis plusieurs années. Et c'est aussi ce que nous permet de faire cette histoire de l'affaire de Newburgh, puisque ce dont on se rend compte, et en fait, moi, dans mon travail d'historienne, hein, d'essayer de reconstruire un peu cette histoire, les sources que j'ai pu trouver dans les archives des associations pour la défense des droits civiques des Noirs américains ont été extrêmement riches parce que les grandes associations pour les droits civiques de l'époque vont vraiment s'intéresser à ce qui se passe à Newburgh justement à cause de ce qu'on disait en début d'entretien, du fait qu'il n'échappe à personne que le but de cette réforme, alors certes c'est de faire baisser le nombre de bénéficiaires d'allocations, mais c'est aussi d'envoyer un signal clair aux Africains-Américains qui voudraient s'installer à Newburgh que dans un sens, ils ne sont tout simplement pas les bienvenus dans la ville. Et donc cet aspect vraiment discriminant de la réforme et du projet social de Newburgh va être vraiment pris très au sérieux par les associations nationales pour les droits civiques. Et donc, hein, ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que la question de la pauvreté, de l'assistance sociale, va être, à partir de ce moment-là, vraiment centrale dans l'argumentaire en faveur des droits civiques dans le nord des États-Unis. Et on en voit vraiment les traces hein, dans la suite des années 60, puisque dans la deuxième partie des années 60 notamment, il y a tout un courant au sein du mouvement en faveur des droits civiques qu'on va appeler le « Welfare Rights Movement », donc un mouvement en faveur d'un droit à l'assistance sociale et pour la meilleure défense des droits constitutionnels des bénéficiaires de l'assistance sociale et notamment des bénéficiaires noirs. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement important à ce moment-là. Et en fait, si on s'intéresse un peu à la chronologie de la mise en route de cette affaire, la raison pour laquelle la réforme de Newburgh, elle va être médiatisé dès le mois de juin 1961, c'est parce que localement, les associations pour le droit civique à Nuremberg vont faire remonter aux autorités de l'État et à la presse également ce qui est en train de se passer à Nuremberg et vont demander au gouverneur de l'État, au sénateur de l'État de New York, de faire interdire la réforme de Nuremberg justement parce qu'elle est discriminante. Donc effectivement, hein, c'est intéressant d'avoir une vue un petit peu généraliste du mouvement pour les droits civiques et de bien se rendre compte que ce qui se passe dans le sud des États-Unis, c'est une chose, mais le nord des États-Unis n'est pas en reste dans cette histoire. Et ça, c'est très clair aux yeux des militants eux-mêmes, hein, et des juristes eux-mêmes, qui vont vraiment faire le parallèle entre la réforme de Nuremberg et les méthodes, les techniques, les pratiques ségrégationnistes dans le sud des États-Unis.
Et donc vous avez évoqué donc la question des juristes et ça, qui a beaucoup beaucoup d'importance parce que bon on sait que les États-Unis sont un pays nation le droit avec un grand D donc au niveau judiciaire et juridique beaucoup de choses se passent par rapport au droit par rapport à la Cour suprême etc avec des procès donc des débats vraiment très 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 pointus et très 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 poussés et que une des armes donc du mouvement des droits civiques ou de leur soutien ou des gens qui dénoncent donc la réforme de Nuremberg et tous les discours qu'il y a derrière va se faire aussi la riposte va se faire aussi pour demander des droits constitutionnels pour garantir une certaine forme d'une part de liberté de mouvement pour tous les gens qui voudraient s'installer dans une ville et toucher des allocations qui ne soient pas contraints à des conditions de résidence qui fixeraient le montant des allocations ou non, mais aussi par rapport à certains droits constitutionnels de recevoir une assistance sociale, donc qu'on peut appeler la solidarité nationale envers les plus démunis, mais qui aurait aussi, par exemple, une revendication par rapport à du droit de formation professionnelle ou d'emploi public spécifique qui serait créé pour les populations un peu discriminées. Et dans les années 60, ça va prendre beaucoup de une grande ampleur avec des grands débats là-dessus. Est-ce qu'on peut appeler les gens qui appellent ça discrimination positive, entre autres. Mais voilà, ça va beaucoup se jouer sur le terrain du droit aussi.
Absolument. Et en fait, ce qui est intéressant, en fait, hein, c'est que la notion de droits sociaux aux États-Unis, juridiquement, elle est très peu fondée. Si on regarde les grands textes juridiques fédéraux, notamment bon, la Constitution, on est dans une situation très différente de celle de la France, par exemple, puisque voilà, l'existence de droits sociaux n'est jamais mentionnée comme telle au niveau fédéral. Certains États fédérés vont parler constitutionnellement de l'existence de droits effectivement à recevoir une allocation, mais c'est avec des variations locales qui sont importantes à avoir en tête. Et justement, hein, comme vous l'avez dit, l'une des réponses juridiques que les associations vont apporter à ce qui se passe à Nuremberg, c'est justement de prôner notamment un droit à la migration qui serait fondé sur un principe de nationalité, de citoyenneté nationale, avec effectivement l'idée que quiconque est libre de ses mouvements est libre de s'installer dans un État des États-Unis dès lors qu'on est citoyen américain et donc de bénéficier d'aide sociale dans n'importe quel État des États-Unis, même si originellement on vient d'un autre État. Parce qu'effectivement, cette question de la provenance des bénéficiaires d'allocations, c'est quelque chose qui va être extrêmement instrumentalisé dans le cadre de l'affaire de Nuremberg, avec effectivement l'idée que certaines personnes quitteraient le sud des États-Unis pour s'installer dans le nord plus généreux. Et les associations pour les droits civiques vont dire même si c'est le cas, le fait est qu'on a le droit. À partir du moment où on est citoyen américain, on a le droit d'avoir accès à des prestations sociales, où que ce soit dans le pays, et la question de l'origine géographique ne doit pas être utilisée comme un frein à l'accession au droit. Bon, en réalité, dans un premier temps, cet argumentaire juridique, il va pas forcément avoir une force au-delà de l'argument rhétorique, puisqu'en fait, il faut vraiment attendre la fin des années 60 et une décision, un arrêt de la Cour suprême de 1969 qui effectivement va rendre illégal le refus d'octroyer des aides sociales sur critères géographiques. Et en fait, la reconnaissance juridique constitutionnelle par les tribunaux fédéraux d'un droit à l'assistance sociale, en fait, ne va jamais être reconnue. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas quelque chose qui existe dans le corpus constitutionnel américain, en tout cas pas au niveau fédéral. Donc effectivement, tout cet argumentaire juridique, il y a des avancées qui sont faites voilà, au cours des années 60 sur la garantie des droits pour les personnes pauvres et pour les personnes noires, mais un droit à l'assistance sociale, un droit aux prestations sociales, ce n'est pas quelque chose qui existe en droit aux États-Unis.
Et une question qu'on pourrait se demander, hein, c'est un autre sujet, on va bifurquer, c'est par rapport au regard sur la pauvreté en général et quelle relation la société ou l'État il devrait entretenir avec la pauvreté. Et ce qu'on pourrait demander, c'est comment l'opinion publique et le regard sur la pauvreté en général, il a évolué aux États-Unis. Donc depuis la grande crise de 1929, on pourrait dire jusqu'à nos jours, mais au moins jusqu'à l'affaire de Newburgh. Et par rapport à ça, quel est le rôle de ce qu'on peut appeler un peu la nouvelle droite qui a un ennemi, c'est l'État social et dans ce cas la question de la fiscalité, hein, voilà. Voilà, c'est pas que la limitation des droits civiques, c'est pas que l'anticommunisme, c'est pas que les enjeux identitaires, ça va être aussi cette question de contrôle l'État social et par rapport aux politiques fiscales, comment tout ça, ça se joue un peu donc depuis les années 30 jusqu'à les années 60, hein, avec donc on peut dire un certain retournement de l'opinion publique qu'elles vont s'atteler certaines personnes qui veulent radicaliser les conservateurs en disant que certaines élites conservatrices ont une politique trop libérale, ils sont trop dans l'établissement et veulent voilà, ça nous fait penser un peu à Donald Trump et des gens comme ça aujourd'hui, mais ça a commencé bien avant.
Oui, voilà, absolument. Je pense que ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand on regarde plusieurs déclarations qui sont faites à l'époque, il y a beaucoup de choses qui semblent extrêmement modernes aujourd'hui, hein, et qui trouvent un écho contemporain assez frappant. Je pense que le regard en fait, hein, qui est jeté par l'opinion, mais aussi par les élus, par les chercheurs en sciences sociales qui vont s'intéresser à la question de la pauvreté, va beaucoup dépendre en fait du contexte politique, scientifique et économique de l'époque. C'est-à-dire que dans les années 30, effectivement, hein, la question du chômage, la question de la pauvreté, les difficultés économiques, c'est quelque chose qui est connu par l'ensemble des familles américaines à l'époque. Hein, la crise de 29 met au chômage des millions de personnes aux États-Unis. C'est ce qui va conduire effectivement à l'élection de Roosevelt et à la promesse d'un New Deal voilà, dont la première fonction est de résorber hein, les effets de la crise de 29 par un programme d'investissement économique et aussi par l'instauration d'un État social à l'échelle fédérale à partir de 1935. Et donc effectivement, là, il y a une analyse de la pauvreté qui nécessairement est structurelle, puisque tout le monde, ou presque, est touché par les vicissitudes économiques causées par la crise de 1929. En 1960, et en fait après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, on est dans un contexte économique et politique extrêmement différent, puisque la Seconde Guerre mondiale, puis voilà effectivement la période de croissance économique et de prospérité que connaissent les États-Unis dans les années 50, va mettre un terme quasiment hein, à la pauvreté. En tout cas, le fait est que la pauvreté est perçue dans cette période de croissance et de prospérité comme une anomalie. En réalité, on s'en rend compte notamment avec l'affaire de Newburgh, la pauvreté n'a pas existe toujours hein, dans l'Amérique prospère guerre des années 50, des années 60, mais c'est quelque chose qui va être perçu par, alors par l'opinion, mais aussi voilà, par les élus, par les administrations, comme une forme d'anomalie, hein, puisque comment est-ce qu'on peut expliquer que de plus en plus de personnes touche une aide sociale et comment est-ce qu'on peut expliquer la persistance de la pauvreté dans une nation aussi prospère que sont les États-Unis d'après-guerre. Et donc c'est à partir de ce moment-là, hein, effectivement, que vont se mettre en place des discours pour expliquer l'origine de cette pauvreté. Donc, par exemple, effectivement, hein, un discours très punitif ou très, très critique des pauvres eux-mêmes va consister à dire que bah, s'il y a des gens qui touchent des aides sociales, c'est pas forcément parce qu'ils sont pauvres, mais c'est parce qu'ils sont paresseux et qui préfèrent frauder le système d'assistance sociale plutôt que de travailler. Ou alors des explications un peu plus sociologiques et qui notamment vont tourner autour des structures familiales des familles africaines américaines. Et ça fait écho hein, à la question des naissances hors mariage qu'on avait évoqué plus tôt, puisque voilà va notamment se mettre en place un argumentaire scientifique, en tout cas sociologique, sur le fait que en raison de l'esclavage, les Africains américains seraient habitués à une forme de désorganisation familiale et que les liens parentaux, que les liens de solidarité au sein des familles, en fait, sont extrêmement détériorés au sein de la communauté africaine-américaine et que notamment ça explique que de nombreuses familles africaines-américaines soient des familles monoparentales où seulement la mère s'occupe des enfants. Et le fait est qu'effectivement, hein, le principal programme d'assistance sociale aux États-Unis, qui à l'époque s'appelle Aid to Dependent Children, c'est un programme à destination des femmes seules avec enfants à charge et qui, après la Deuxième Guerre mondiale, va être de plus en plus touché par des familles monoparentales noires. Donc effectivement, il y a une vraie évolution hein, du regard sur la pauvreté. Donc ça dépend du contexte politique et ça dépend aussi de quelle population est-ce qu'on parle vraiment. Puisque effectivement, dans les années 60, on voit aussi apparaître voilà, un discours sur la pauvreté blanche des régions rurales, des Appalaches et du sud des États-Unis, où là on va donner une explication beaucoup plus structurelle à la pauvreté, là où dans le cas de la pauvreté noire, l'explication sera beaucoup plus de nature sociologique et culturaliste.
Oui, même si ceux qu'on appelle les white trash ont aussi eu droit à certaines
trucs
culturalistes aussi. Mais, ouais. mais on va faire une pause musicale avant de poser la dernière question.
Don't wanna go, ain't no peace down yonder. Don't wanna go.
êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'Étagère. On a encore écouté encore un morceau de blues. Et là, c'était Willie May Williams, Don't Want to Go There. Eh bien, on va finir notre entretien. On va se poser un peu une question sur un peu cette reconfiguration conservatrice aux États-Unis, mais qui va un peu essaimer dans le monde en général. Hein. On va voir en quoi cette affaire de Newberg va se révéler essentielle en vue de cette reconfiguration conservatrice dans un style qui se veut respectable par la diffusion, l'utilisation d'un langage un peu codé qui serait centré sur le contrôle local des ressources et de la fiscalité, un peu le droit de propriété, des choses comme ça, etc. etc. Et comment ça va essaimer, hein. Il y aura l'exemple, par exemple, de Ronald Reagan, qui était gouverneur de Californie à la fin des années 60. Et pour être président à la fin des années 70, il va parler donc cette fameuse welfare queen, hein, qui serait le truc de... qui serait donc la femme afro-américaine qui profilerait des allocations, la reine des allocations, avec un mode de vie dissolu, donc on a parlé tout à l'heure, qui serait l'emblématique de la pauvreté, des mauvaises politiques sociales qui ne créent que la crise et la pauvreté. Voilà. Quels sont les liens un peu entre cette reconfiguration d'inspiration conservatrice d'un sort d'un nouvel État providence, mais qui serait beaucoup plus strict, hein, vraiment, hein, tant en termes de contrôle social que financier, etc. Et ce qui peut se passer ailleurs dans le même domaine. Par exemple, en France, on vient de voir qu'il y a, avec la loi travail, modification un peu de la réforme du RSA, qui va un peu dans le sens du workfare, et ça va un peu dans un sens général. Ça a déjà, les États-Unis, il y a eu un consensus qui s'est fait là-dessus entre une certaine gauche modérée et la droite, et puis ça a irrigué un peu beaucoup de sociétés du monde entier, quoi, si on peut dire.
Oui, absolument. Donc effectivement, ce qu'on appelle voilà l'existence d'un langage codé aux États-Unis, c'est effectivement l'idée d'exprimer une critique dont le sous-bassement est fondamentalement racial ou raciste, mais de l'exprimer de manière respectable, qui en tout cas ne fait pas directement référence à la dimension raciale, mais va utiliser effectivement de manière codée, c'est-à-dire sans vraiment le désigner explicitement, mais en fait tout le monde sait de quoi il en retourne réellement, d'enjeux un peu connexes. Donc effectivement, la fiscalité ou le droit à la propriété privée. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui se met vraiment en place au début des années 60 et notamment pendant l'affaire de Newberg, et qui va vraiment infuser le discours états-unien sur l'aide sociale, mais également par exemple sur la criminalité urbaine, par exemple sur la question des émeutes urbaines qui secouent les États-Unis à la fin des années 60, où voilà, on va voir une critique en fait racialement chargée, mais qui ne s'assume pas et qui en fait va parler voilà d'enjeux raciaux de manière extrêmement atténuée et en mettant voilà en avant d'autres enjeux pour justement éviter toute accusation de racisme. C'est quelque chose qu'on voit, hein, effectivement, dans le sens où malgré le fait que typiquement quand Ronald Reagan en 76 parle des welfare queens, effectivement, qui conduisent des Cadillacs, qui multiplient les faux noms pour toucher toujours plus d'associations, alors qu'en réalité elles vivraient dans l'opulence justement permise grâce à la fraude. En fait, ça n'échappe à personne qu'à partir de ce moment-là, la figure majoritaire du mauvais pauvre, du fraudeur ou en tout cas du bénéficiaire de l'aide sociale est largement racialisé, hein, aux États-Unis, hein, et on le voit très clairement dans les reportages de presse, dans certains clips de campagne également, qui, lorsqu'on parle d'assistance sociale, ne vont mettre en image que des familles noires. Donc effectivement, dans l'imaginaire collectif américain, la question raciale, elle est à la fois explicite et en même temps, elle est atténuée dans les discours publics. C'est quelque chose effectivement hein, qu'on peut avoir en tête si on essaye de se pencher sur d'autres contextes nationaux, peut-être au Royaume-Uni, en Allemagne, également en France, d'essayer de voilà peut-être de s'efforcer de décoder certains impensés raciaux hein, qu'on pourrait avoir dans des débats politiques contemporains sur les questions sociales. Et ça, je pense que peut-être que ça pourrait être une piste de recherche à l'avenir, d'essayer dans une approche peut-être beaucoup plus comparative, d'essayer de voir comment se racialise la figure du mauvais pauvre et du mauvais bénéficiaire d'aide sociale de manière comparée ou croisée entre France, États-Unis, Royaume-Uni, peut-être d'autres contextes nationaux aussi. En tout cas, ce qui est vraiment très connu et très, très documenté aux États-Unis, c'est peut-être un peu moins le cas en France ou ailleurs, mais justement cette histoire de Newburgh et l'exemple américain doit aussi nous alerter sur les impensés, sur les représentations effacées des discours publics, mais qui néanmoins subsistent dans l'imaginaire collectif.
Oui, et par exemple, par rapport au cas des États-Unis, où on avait une vision un peu, donc par rapport à la vision du New Deal et d'un État social assez généreux, enfin la welfare state, il faut quand même parler d'une institution qui s'appelle donc le Work Relief, qui remontait aux années 30, hein, lorsque l'administration fédérale avait créé des milliers d'emplois pour les chômeurs. Mais, par exemple, là, il y a une loi de sécurité, elle va aider les pauvres qui ne sont pas employables, mais ceux qui sont décrétés comme employables, bah, ce Work Relief va fournir emploi et salaire, mais contre des missions d'intérêt public. Et ça va perdurer localement bien après l'arrêt des agences pour l'emploi du New Deal. Et vous dites qu'il y a deux logiques un peu qui sous-tendent ce programme. Il y a la logique que la pauvreté, ça serait une anomalie produite par déficience individuelle. Donc avec ça va être accentué par rapport aux Noirs américains parce qu'ils sont vus avec des traits caractéristiques par rapport à leur paresse, etc., etc. Mais aussi, les critères d'éligibilité seront définis selon l'idéologie domestique genrée, avec une stricte éthique du travail et du rôle maternel de femme au foyer. Et ça, c'est important à souligner aussi.
Oui, absolument. Hein. C'est intéressant de se rendre compte qu'aux États-Unis, la question du travail en contrepartie de l'aide sociale, elle est vraiment centrale hein, depuis de nombreuses décennies. Et en fait, alors c'est vrai que c'est intéressant de lire cette histoire de Newburgh comme effectivement une lampe de rancement pour le conservatisme américain contemporain, mais qui aussi en fait s'inspire de logiques anciennes. Et effectivement, l'idée de demander des heures de travail sur des missions d'intérêt général en contrepartie de l'aide sociale, c'est quelque chose d'extrêmement ancien, hein, qu'en fait, dès l'époque coloniale en Amérique du Nord, on peut retrouver aussi au 19e siècle avec effectivement l'institution qui était à l'époque la poor house, donc une espèce de pensionnat pour pauvres où on demandait aux pauvres en contrepartie du gîte et du couvert, de travailler sur des missions d'intérêt général pour les collectivités. On voit ça aussi pendant les années 30, hein, effectivement, où d'un côté, effectivement, l'État fédéral va créer des programmes catégoriels pour certaines catégories de personnes non employables, typiquement voilà les personnes âgées, les mères avec enfants à charge, les aveugles par exemple, et les États vont eux continuer à avoir ce système effectivement appelé de work relief pour faire travailler voilà pour octroyer une aide sociale à des nécessités qui ne correspondent pas aux catégories des programmes fédéraux mais qui ont besoin d'une aide sociale, et donc on va aussi leur demander de participer à des missions du type entretien de bâtiments publics, ramassage des feuilles mortes dans la rue, déneigement en cas d'intempéries, toute une série voilà, de missions d'intérêt général et qui effectivement, si ça c'est une logique relativement locale dans les années 30 et les années 40, à partir des années 60 et de la généralisation de la logique du workfare dans les politiques nationales, va en fait se propager à plus grande échelle. Et effectivement, hein, c'est intéressant de voir dans les débats contemporains en France aussi, hein, à quel point la question du travail est vraiment centrale, typiquement comme vous l'avez mentionné, hein, dans la réforme récente du RSA, où on s'achemine vers cette question des heures obligatoires de travail sur des missions d'intérêt général. Donc c'est vrai qu'il y a une forme, ce sera peut-être un petit peu poussé de dire qu'il y a une américanisation des politiques sociales françaises, mais en tout cas, on voit que la logique punitive qui en fait fait florès depuis de nombreuses années aux États-Unis. Voilà, le cas français n'est pas exempt de logique similaire ou en tout cas comparable.
Une petite nuance, c'est qu'aux États-Unis, il y a une société, même si elle n'est pas décrétée d'essence religieuse, avec une grosse connotation très morale, d'inspiration un peu, ce qu'on pourrait dire, WASP, avec donc, cette culpabilisation des femmes à pas être femmes au foyer, qui est beaucoup plus, peut-être plus prégnante que dans la société
Absolument, ouais.
française. Voilà.
C'est pour ça qu'effectivement, dans le cas américain, en fait, ce sont des logiques qui sont très anciennes, parce qu'effectivement, elles sont vraiment consubstantielles à l'éthique du travail protestante, qu'on associe effectivement, voilà, à la doctrine sociale américaine. Et effectivement, on se retrouve aussi cette logique de contrôle individuel également dans la question des structures familiales. Donc, il est certain que les contextes culturels et nationaux sont très différents. Cependant, on voit quand même une vraie perméabilité, pardon, des idées notamment venues de la droite américaine et d'autres contextes nationaux, et notamment en France. Et je trouve qu'effectivement, quand on regarde les arguments de l'extrême droite française aujourd'hui sur la limitation du RSA, on retrouve très vite la question raciale, la question d'immigration, des étrangers. Et c'est frappant de voir qu'aux États-Unis, ces arguments ont une forme de légitimité beaucoup plus précoce.
Eh ben voilà, on vous remercie pour cet entretien. Donc, on conseille la lecture de votre livre très intéressant qui s'appelle donc
Merci beaucoup.
L'affaire de Newburgh aux origines du nouveau conservatisme américain, qui est donc paru aux presses de Sciences Po. Et on voudrait dire aussi que votre directeur de thèse, qui avait fait paraître un livre assez intéressant, disons le HESS, c'était la fin de la pauvreté, pour l'interrogation aux États, par rapport aux questions états-uniennes par rapport à ça, qui s'appelle Romain Huré. Et il a co-dirigé un documentaire très intéressant sur Arte, sur l'histoire le culte de la richesse, l'histoire du capitalisme américain, qu'on recommande, qu'on peut voir
Absolument.
Sur Arte.
Merci.
Au revoir.
Au revoir et merci beaucoup.
La tête dans l'étagère. Une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.